Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est midi en temps universel, 13h ici à Paris.
RFI Midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Anne Cantner. Bonjour à toutes et à tous. En Israël, une enquête ouverte. L'armée, selon plusieurs témoignages, a utilisé des civils palestiniens comme boucliers humains, des actes considérés comme crimes de guerre. Le récit de notre correspondant à Jérusalem, Sami Bourlifa. En Syrie, un accord signé entre les forces kurdes à la tête de l'administration autonome du nord-est syrien et le président par intérim, Ahmed El-Shara. Accord qui doit définir l'avenir de cette région qui représente presque 30% du territoire syrien. Une attaque massive de drones ukrainiens en Russie, bilan provisoire de 3 morts, une attaque qui intervient juste avant le début des pourparlers entre Américains et Ukrainiens en Arabie Saoudite. Explication dans ce journal avec Anastasia Becchio. Aux Philippines, l'ancien président Rodrigo Duterte, arrêté à Manille, il a été placé en détention, arrestation dans le cadre d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale qui le soupçonne de crimes contre l'humanité. Selon sa fille, il prend la direction de La Haye dans la journée. Enfin, de la musique punk pour terminer ce journal, ça déménage avec le 4e album du groupe américain Sextile, un appel à la résistance contre la politique de Donald Trump.
RFI Midi.
L'armée israélienne a utilisé des civils de Gaza comme boucliers humains pendant la guerre.
Selon le quotidien israélien Haaretz, la police militaire israélienne va ouvrir une enquête suite à des pressions internationales. En début d'année, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, a établi qu'au moins 9 témoignages de Gazaouis ayant subi ces exactions ont été jugés crédibles. À Jérusalem, les explications de Sami Bourlifa.
Un civil gazaoui attaché à une longue corde est envoyé dans un tunnel. Un autre, habillé en uniforme militaire israélien malgré lui, est envoyé fouiller une maison. Un dernier, en caleçon, pour seul vêtement, ligoté, les mains dans le dos, ouvre la voie aux soldats qui se cachent derrière lui. Ces récits sont documentés par des vidéos. Les soldats ont tout filmé. L'utilisation de boucliers humains est considérée comme un crime de guerre. Selon le journal Haaretz, sous la menace, ces civils gazaouis ont eu pour mission d'incendier des immeubles résidentiels, des appartements ou des entrepôts à Gaza. À mesure que la guerre a progressé, les soldats israéliens ont eu de plus en plus recours à cette pratique. De nombreux chiens de l'unité canine de l'armée israélienne spécialisée dans le déminage ont été tués, blessés ou redéployés au Liban. Les soldats ont donc remplacé les animaux par des civils palestiniens innocents. Choisis au hasard, ils ont été détenus plusieurs jours, voire quelques semaines. Selon Haaretz, certains auraient même été forcés à poser des engins explosifs sans protection. On ignore encore si certains ont été tués, conclut le journal. Sami Bourlifa, Jérusalem, RFI.
Dans le nord de la Cisjordanie occupée, l'armée israélienne dit avoir abattu 3 combattants palestiniens. Une femme palestinienne a également été tuée au cours de cette opération israélienne visant les groupes armés palestiniens dans cette ville.
Une importante prise d'otage au Pakistan.
Des séparatistes retiennent plus de 450 passagers d'un train au Baloutchistan, dans le sud-ouest du pays. L'attaque est revendiquée par l'armée de libération du Baloutchistan, le principal groupe séparatiste de cette région frontalière de l'Iran et de l'Afghanistan. Notre correspondante au Pakistan, Sonia Ghezali, reviendra sur cette prise d'otage, toujours en cours, dans le journal de 14h. En Syrie, un accord que l'on n'attendait plus a été signé entre les forces kurdes à la tête de l'administration autonome du nord-est syrien et le président par intérim, Ahmed El-Shara. Il doit définir l'avenir de cette région qui représente presque 30% du territoire syrien. L'accord veut rattacher le territoire et ses habitants au reste de la Syrie après les pires violences depuis la chute en décembre de Bachar al-Assad. Ukrainiens et Américains réunis à Jeddah en Arabie Saoudite. Il s'agit de la première rencontre de haut niveau depuis la visite désastreuse de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche fin février. Du côté de la délégation ukrainienne, on salue un début de rencontre constructif. Les deux parties doivent notamment évoquer la question d'une trêve partielle entre Kiev et Moscou. Sur le terrain, aucun signe de désescalade. La Russie dit avoir repris à l'armée ukrainienne 12 localités et plus de 100 km² de sa région frontalière de Koursk. Quant aux forces ukrainiennes, elles ont lancé une attaque record de drones contre la Russie, en particulier dans la région de Moscou. Anastasia Becchio, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette attaque massive de drones est une façon pour la partie ukrainienne de mettre la pression avant les négociations.
Oui, augmenter la cadence des attaques avant des négociations, c'est une tactique large largement utilisé par les Russes. Les Ukrainiens l'ont également adopté et ne s'en cachent pas. Andriy Kovalenko, le porte-parole du centre gouvernemental ukrainien contre la désinformation, explique que cette offensive massive de drones sur la Russie est un signal supplémentaire adressé à Vladimir Poutine pour l'inciter à s'intéresser à une trêve aérienne. Cette question doit être à l'ordre du jour à Jeddah. Des responsables ukrainiens ont déclaré à l'agence de presse AP qu'ils proposeraient un cessez-le-feu couvrant la mer Noire, ce qui permettrait de sécuriser la navigation et pourrait stopper les frappes de missiles à longue portée qui touchent de nombreux civils en Ukraine. Côté américain, le secrétaire d'État présent au pourparlers a jugé prometteuse l'idée de ce cessez-le-feu partiel, tout en soulignant que les deux parties devraient faire des compromis. Marco Rubio a confié aux journalistes qui l'accompagnaient qu'il n'excluait pas de rencontrer Volodymyr Zelensky de façon informelle. Le président ukrainien s'est entretenu avec les dirigeants saoudiens hier à Jeddah, mais ce sont son chef de l'administration et ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense qui sont chargés de discuter avec la délégation américaine en attendant un éventuel nouveau face-à-face du président ukrainien avec Donald Trump.
Merci beaucoup Anastasia Becchio du service international de RFI. Emmanuel Macron était à Strasbourg ce matin pour la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, une cérémonie à dimension européenne en présence de la présidente du Parlement, Roberta Metsola, qui s'est exprimée aux côtés du président de la République. Le début d'une journée consacrée à la sécurité pour le chef de l'État, Valérie Gasse.
Devant des rescapés, des familles de victimes des attentats qui ont endeuillé les pays européens ces dernières années, Emmanuel Macron a pris la parole en évoquant l'attentat de Mulhouse.
L'éclair d'une lame de couteau, deux agents municipaux qui s'écroulent, un homme de 69 ans qui s'effondre et va rendre son dernier souffle. Il y a quelques jours de cela, à quelques kilomètres d'ici, à Mulhouse.
Le risque terroriste est toujours là. Marine Le Pen a d'ailleurs expliqué il y a quelques jours que le terrorisme islamiste représentait selon elle la première menace pour la France. Alors Emmanuel Macron a voulu rappeler qu'il ne le négligeait
nous
pas.
Nous continuerons, oui, nos investissements historiques dans nos services de renseignement parce que nous devons tout faire pour éviter de nouvelles victimes. Et si 9 attentats ont été déjoués en 2024, nous savons combien la menace est là et rôde toujours.
Le renseignement, outil indispensable contre le terrorisme, mais aussi dans la guerre en Ukraine, l'autre dossier prioritaire pour Emmanuel Macron. Après Strasbourg, le président inaugure le siège de la Direction générale de la sécurité intérieure, puis reçoit à l'Elysée les chefs d'état-major des armées de l'Union européenne et de l'OTAN. Emmanuel Macron affiche sa volonté d'être sur tous les fronts pour assurer la sécurité des Français. Valérie Gasse, Strasbourg, RFI.
Une collision spectaculaire entre un cargo et un pétrolier en mer du Nord au large des côtes anglaises qui a provoqué un important incendie et le rejet de kérosène. Une trentaine de personnes ont été secourues. Un membre d'équipage est toujours porté disparu. Les raisons de l'incident restent à déterminer. L'incendie est toujours en cours et les risques de catastrophe écologique ne sont pas exclus. Les Groenlandais sont appelés aux urnes au moment où leur avenir est brutalement menacé par Donald Trump, qui a encore une fois menacé le 4 mars dernier de s'emparer de l'île arctique. D'une manière ou d'une autre, les élections législatives se tiennent aujourd'hui sur ce territoire autonome danois où souffle un fort vent d'indépendance. Les électeurs commencent à se rendre dans les bureaux de vote. Ottilia Ferré.
Nous ne voulons être ni américains ni danois, c'est ce qu'a rétorqué le premier ministre groenlandais aux nouvelles menaces de Donald Trump. Selon un sondage, 85% des Groenlandais n'ont aucune intention de faire partie des États-Unis. Kira, étudiante de 25 ans, fait partie de cela. Voici ce qu'elle en pensait sur place à Nuuk, la capitale, en janvier dernier.
Tout ça, ça nous fait bien rire, mais nous ne sommes pas des objets. On ne veut pas être doublement colonisés, on veut être nous-mêmes. Et le moment est venu.
Les débats autour de ces élections tournent bien entendu autour des relations à entretenir ou non avec les États-Unis, mais l'enjeu principal, c'est l'indépendance du territoire qui est sous tutelle danoise depuis 1721. Ce désir d'indépendance, Donald Trump est venu sans le vouloir le renforcer. Kuba Nicholson a 40 ans, elle est candidate aux élections sous la bannière de Naleraq, le parti indépendantiste, et elle se réjouit à moitié de la situation.
L'intérêt manifesté par Trump pour le Groenland est comme un moment de grande prise de conscience. conscience. Les Groenlandais commencent vraiment à se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus de valeur qu'ils ne le pensaient. Je vois ça comme une chose très très positive.
En temps normal, ces élections passeraient totalement sous les radars, mais cette fois-ci, elles sont sous haute surveillance et il se pourrait aussi que les Inuits soient appelés à voter de nouveau lors d'un référendum sur l'indépendance de leur territoire en avril, comme l'avait annoncé en janvier leur Premier ministre. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
Aux Philippines, l'ancien président Rodrigo Duterte a été arrêté ce matin à l'aéroport de Manille avec sa femme et une de ses filles. À peine sorti de son avion en provenance de Hong Kong, il a été placé en détention. Son arrestation s'inscrit dans le cadre d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. À Manille, Nemo Lecoq James.
Assis confortablement sur un fauteuil, un Coca-Cola à la main, Rodrigo Duterte est entouré de policiers. Il questionne un fonctionnaire philippin.
What is the law?
Quelle est la loi et quel est le crime que j'ai commis ?
Un crime contre l'humanité, selon la CPI, la Cour pénale internationale. Après 9 années d'enquête sur la guerre contre la drogue menée par l'ancien président, c'est finalement très tôt ce matin qu'elle a livré à Interpol un mandat d'arrêt. Comme vous pouvez l'imaginer, la nouvelle fait réagir ici aux Philippines, devant la base aérienne où Rodrigo Duterte est détenu. Ses partisans se sont réunis pour le soutenir.
Ayez pitié de ce vieux monsieur emprisonné à l'intérieur.
Plusieurs hommes et femmes politiques ont aussi réagi, dont Leila de Lima, ancienne sénatrice et militante des droits de l'homme, emprisonnée sous le mandat de Duterte.
Duterte doit maintenant répondre de ses actions, et pas devant le tribunal de l'opinion publique, mais devant les règles de la loi. À ceux qui ont mené ce long et difficile combat, vos voix comptent, votre courage compte, et aujourd'hui la poursuite de la justice continue.
Historiquement, les suspects arrêtés par la Cour pénale internationale restent pendant plusieurs jours dans l'état où ils sont détenus avant d'être transférés à La Haye. Mais depuis le mandat de Duterte, les Philippines ne sont plus un membre de la Cour pénale internationale, ce qui complexifie l'extradition. Nemo Lecoq James, Manille, RFI.
Et la fille de Rodrigo Duterte indique tout juste que son père sera emmené à La Haye dans la journée.
En France, suite et fin aujourd'hui du procès d'une enseignante accusée d'avoir harcelé plusieurs élèves, dont une qui s'était donné la mort en 2019.
Eva L., collégienne de 11 ans, dont les parents ont expliqué hier à la barre les humiliations répétées que lui faisait subir sa professeure. Bonjour Baptiste Coulon.
Bonjour.
Vous êtes au tribunal judiciaire de Pontoise, au nord de Paris, pour suivre ce procès. L'enseignante, qui a toujours nié les faits, est interrogée en ce moment à la barre.
Oui, et à la barre, justement, la prévenue raconte d'abord le choc de sa mise en examen, puis de sa suspension. Mais le plus dur, dit-elle, c'est que la famille me tient responsable de la mort de leur fille. Ça, c'est extrêmement lourd à porter. Une épreuve pour l'enseignante, une épreuve pour tout le collège, que la mort d'Eva, elle plonge dans un tourbillon. On était dans l'œil du cyclone, explique l'enseignante. D'un côté, on nous demandait de nous taire, de ne pas aller aux obsèques. De l'autre, nous étions la cible d'attaques, d'articles de presse. Ça nous a totalement paralysés. La prévenue est ensuite interrogée sur Eva, elle, et sur cette heure de vie de classe pendant laquelle l'enfant doit expliquer pourquoi elle se sent harcelée. Eva, elle, avait pleuré. Sa professeure lui avait dit d'arrêter de façon virulente. Ce n'était pas la bonne façon de le dire, admet l'enseignante. Mais je n'ai jamais eu l'intention de la harceler, se défend-elle encore, sans pour autant exprimer d'empathie à l'égard des parents. À quelques mètres, la mère d'Eva, elle, laisse échapper un soupir. Alors la présidente la relance une dernière fois au sujet d'un autre élève. Quand vous dites à toute la classe « J'espère que tout le monde a compris, sauf Julien. Rien ne vous choque. Je regrette ces mots, dit-elle, je ne pensais pas que ça pouvait blesser.
Merci beaucoup Baptiste Coulon. Comme promis, une page musicale pour terminer ce journal avec le groupe Sextile. Face à Donald Trump, le rock continue à donner de la voix. C'est son 4e album, José Marinho, à écouter pour nous.
L'énergie du punk mixée à la liberté de la rave soutenue par la machinerie électronique. On pourrait définir ainsi cet album de 13 titres du duo californien Sextile formé en 2015. C'est dansant, mais cet album résonne comme un appel à la résistance. Face à Donald Trump, ses sorties sexistes, ses positions anti-avortement et contre la communauté LGBT, Sextile gronde et le dénonce en s'efforçant de toucher différentes générations grâce à l'alliage des courants New Wave et Techno, comme ici sur ce titre. Tout sur Yes Please sonne donc comme un appel à ne pas se laisser abattre et à prendre avant tout du plaisir. À l'heure où l'Amérique ne sait plus très bien à quelle géographie se rattacher, le message est clair. Sextile clame haut et fort que le bonheur demeure une idée neuve.
Yes Please, quatrième album Sextile, qui sera en concert le 4 juin au Trabendo à Paris et le 7 au Festival Art Rock à Saint-Brieuc. La suite d'RFI Midi, donc avec vous, Anne Cantner.
Merci Olivier Sherman, à tout à l'heure. 13h15 à Paris, on va parler de l'actualité sportive. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à tous.
Avec du football bien sûr au programme. Ce mardi soir, 4 premiers huitièmes de finale, retour en Ligue des Champions.
Au premier rang desquels, bien sûr, Liverpool, Paris Saint-Germain, Salah l'Égyptien et sa bande de rouges, archi-dominés à l'aller, mais vainqueurs sur le fil, 1-0. Au Parc des Princes, Dembélé et ses Parisiens, douchés, mais pas résignés, eux savent comment ils doivent jouer pour maîtriser le leader de la Première Ligue. Tout est donc possible, évidemment, Anne, sauf qu'il ne faut pas oublier que Liverpool aussi a le droit de bien jouer et ne sera donc pas aussi amorphe et apathique qu'il y a 8 jours à Paris. Bref, Luis Enrique a martelé un discours de confiance à ses troupes, lui qui est un adepte des remontadas, comme on les appelle, après celle de l'an dernier que le PSG a infligée au Barça en quart de finale et surtout en 2017, lorsque les rôles se sont inversés et qu'il avait réussi à éliminer le club parisien alors qu'il entraînait les Catalans. Mais il préfère, Luis Enrique, préciser que perdre quand même ce match aller il y a 8 jours n'était pas tout à fait un scénario préféré.
Non, j'aurais préféré ne pas avoir à remonter 4 buts contre le PSG à l'époque. Mais dans ma carrière, même quand des choses vont mal, il y a des éléments qu'on peut tenter de maîtriser. Je trouve ça intéressant à gérer. J'ai la capacité de le faire. Mais bien évidemment que j'aurais préféré avoir un résultat positif au match aller.
Et sin freno, por decirlo de alguna manera, pero preferiría tener un resultado positivo.
Bah, il est pas toujours simple à comprendre, même en espagnol, Luis Enrique, mais on est retombé sur nos pattes. Il était avec Cédric de Oliveira.
Cédric de Oliveira, qui est envoyé spécial pour nous à Liverpool et qui s'est penché sur le cas Mo Salah, très discret hein, la semaine dernière à Paris, il faut le dire. Mais l'idole, la star, le footballeur adoré des supporters sera bien sûr à suivre ce soir. En tout cas, ils attendent beaucoup de lui. Écoutez ce qu'ils ont dit à Cédric de Oliveira.
À la simple évocation de son nom, le visage de Phil s'est illuminé instantanément. Ce supporter quinquagénaire déborde d'admiration pour Mohamed Salah.
Absolument. Il y a des joueurs comme ça, c'est un privilège de les avoir, de les regarder. Il ne faut pas les perdre des yeux parce qu'ils sont capables, comme ça, sur un geste, de faire quelque chose de spécial avec le ballon.
Et il en a fait des choses spéciales, l'Égyptien, cette saison. 32 buts et 22 passes décisives alors que le mois de mars débute à peine. Bilan qui impressionne tout le monde et notamment son coéquipier Diogo Jota.
C'est exceptionnel. Je me demande si les gens n'ont pas arrêté de compter parce qu'il fait vraiment des choses incroyables. Il fait la différence. Évidemment, ça nous aide énormément. C'est bien d'avoir un joueur comme lui dans l'équipe.
Près de 8 ans après son arrivée, près de 400 matchs plus tard, Mo Salah est déjà entré dans l'histoire du club. Matt Addison est journaliste pour le site spécialisé Liverpool.com et selon lui, l'Égyptien a fait du chemin.
Quand il est arrivé, il était très individualiste. Il ne voulait que marquer des buts. Il a changé en tant que joueur. Je pense qu'il est moins égoïste. Il a aussi pris une dimension différente dans son propre pays, même sur le continent africain. C'est quelqu'un qui a plus de pression sur les épaules que la plupart des autres joueurs. Il a toujours eu à gérer ça.
À 32 ans, Salah semble désormais complètement épanoui à Liverpool, où il a trouvé un cadre idéal, comme l'explique Neil Atkinson, qui est présentateur du podcast The Anfield Wrap.
Salah a une identité complexe. Il y a sa foi, il y a sa nationalité, il y a son continent, mais il a construit beaucoup de choses et passé des moments en charnière de sa vie ici, comme la naissance de ses enfants. C'est un vrai Liverpoolien maintenant, et il a montré tant d'amour et de dévotion aux supporters. C'est un joueur de Liverpool parce qu'il aime désespérément le club.
Ça n'empêche pas la star de faire craindre le pire à ses supporters depuis plusieurs mois. En fin de contrat en juin prochain, Salah n'a toujours pas trouvé d'accord avec la direction des Reds pour prolonger. Interrogé par la télévision anglaise en janvier dernier, il a laissé planer le doute sur son avenir.
Et oui, il reste 6 mois. En tout cas, ce sont mes derniers mois. Il n'y a pas de progrès. On n'a pas avancé dans les négociations. On doit juste patienter et on verra.
Dans une ville où le visage de l'Égyptien a été reproduit sur plusieurs fresques, la question d'un départ terrifie les supporters des Reds. John ne veut pas y penser.
C'est le football. Parfois, tu perds ton joueur favori, mais ça nous briserait le cœur. Ça peut être très, très difficile. C'est un phénomène et il pourrait bien être le prochain Ballon d'Or.
Ce serait la consécration individuelle suprême pour Salah qui veut déjà terminer cette saison en fanfare, remporter la Première Ligue et pourquoi pas la Ligue des Champions. Cédric de Oliveira, Liverpool, RFI.
Et vous savez quoi, Anne?
Non, vous savez pas.
Eh
bien, Cédric de Oliveira sera à ce Liverpool-PSG ce soir, début de rencontre, 20h temps universel, on le sait. Mais prise d'antenne pour lui à Anfield, dès 19h40, avec Sofiane Amazian et Patrick Juillard, en studio, ici, à ici, oui. Youpi, soirée spéciale sur RFI avec d'autres matchs au programme, évidemment.
Parmi lesquels l'Inter Milan face au Feyenoord de Rotterdam, un duel 100% allemand, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, on va y revenir. Et puis, un peu plus tôt dans la soirée, le Barça qui jouera contre le Benfica Lisbonne.
17h45, temps universel. À l'aller, Anne, les Catalans s'étaient imposés sur la pelouse des Portugais 1-0 grâce à un but de Rafinha. Mais malgré ce pécule, rien n'est encore fait pour l'entraîneur du Barça, Hansi Flick. Plutôt élogieux d'ailleurs envers son collègue d'en face, Bruno Lage.
Benfica est une équipe qui joue très bien. Leur coach, Bruno Lage, fait du bon boulot. On peut voir sa philosophie et le style de jeu qu'il imprime. Nous allons devoir être à 100%. Cela n'a rien à voir avec le premier match. C'est le match retour et nous devons le gagner.
Bien sûr que c'est meilleur de gagner. Le duel germanique, on y revient, Anne. Je vous en parlais il y a quelques secondes. Vous en parliez de ce Bayern Munich et Bayer Leverkusen. Eh bien, c'est sûr que le Bayern est plutôt bien parti puisqu'il a gagné 3-0 à l'aller. Un sacré pécule là d'avance. Mais Xabi Alonso, l'entraîneur des champions en titre de Bundesliga, le Bayer Leverkusen, eh bien, il y croit encore, ça tombe bien. Il estime que ce Bayern est prenable par son Bayer.
Die Mannschaft glaubt, glaube das, wir haben etwas.
Nous y croyons parce que nous avons fait quelque chose de plus difficile. La saison dernière, nous avons remporté la Bundesliga sans perdre un seul match. Pour moi, c'est plus difficile. Les joueurs le savent aussi. C'est important car si les choses vont dans notre sens, cela pourrait avoir une influence positive.
Bayern, 20h temps universel, comme Liverpool, PSG, Inter, Feyenoord, le tout sur RFI, on l'a dit, 19h40, c'était U.
Et on sera là, évidemment. Quelques résultats de tennis quand même pour terminer, Olivier, à Indian Wells aux États-Unis.
Où Carlos Alcaraz, l'Espagnol, et Taylor Fritz, l'Américain, tête de série numéro 2 et 3, file facilement, relativement facilement, en huitième de finale. Le Bulgare Dimitrov aussi, après être venu à bout de haute lutte, de Gaël Monfils, après plus de 3 heures de combat, ces deux hommes-là s'aiment beaucoup, je vous encourage à aller voir leur accolade après 3 heures de match. Et c'était bien sympathique à voir, on voyait beaucoup d'émotions.
J'irai voir ça. Merci Olivier Pron.
RFI Midi, Anne Cantner.
Notre invité, tout de suite, pour parler de ces marchés financiers qui ont largement perdu de l'enthousiasme observé après l'élection de Donald Trump. Ça va un peu mieux ce matin, mais hier, les places boursières étaient au mieux prudentes, au pire en forte baisse, après des propos de Donald Trump dimanche évoquant une période de transition, répondant de manière assez floue à une question sur le risque de récession aux États-Unis. Bonjour Jérémy Guez.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC à Paris. Vous avez écrit « États-Unis, déclin improbable, rebond impossible », paru chez VA Éditions. Il existe ce risque de récession à court ou à moyen terme ?
Très clairement, on est quand même dans la perspective d'une activité économique assez cyclique, indépendamment de qui est le résident de la Maison Blanche. L'Amérique a connu une croissance tout à fait remarquable, presque insolente, depuis la réouverture post-pandémie. Et là, effectivement, un atterrissage, qu'il soit en douceur ou que ça soit une récession plus violente, n'aurait rien de surprenant par rapport à ce qu'on sait de l'activité économique habituellement.
Alors, Donald Trump a engagé très rapidement un certain nombre de mesures. Il martèle, lui, que les droits de douane qu'il veut imposer à tout le monde, ses ennemis comme ses alliés, vont rapporter des milliards de dollars. Est-ce qu'il a raison ?
Non. L'activité, d'un point de vue de ce qu'on sait de l'histoire économique, les tarifs douaniers, habituellement, sont payés par les acteurs économiques locaux. Donc les consommateurs et les entreprises, pendant le premier mandat de Donald Trump, l'histoire la plus commune n'aimant racontée, c'était celle de Harley Davidson qui expliquait qu'elle avait beaucoup de mal à confectionner ses motos sur le sol américain compte tenu des prix qu'elle devait payer pour les matières premières. C'est plus une image de marque du Trumpisme, toute cette obsession avec les tarifs, qu'une réalité économique derrière. Là, ce qu'il essaye de faire, c'est de rééquilibrer la production mondiale et de faire en sorte qu'elle puisse être davantage aux États-Unis, mais ça risque de venir à un prix énorme pour l'économie mondiale et pour l'économie américaine en particulier.
D'ailleurs, on a entendu déjà l'inquiétude de plusieurs secteurs aux États-Unis, l'industrie automobile notamment, les agriculteurs aussi. Est-ce qu'on peut déjà mesurer les conséquences qu'aura la politique économique et commerciale de Donald Trump ?
Alors, il y a un certain nombre d'estimations qui circulent. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, et ce qu'il est important de souligner, c'est que, en fait, le risque inflationniste est significatif. Quand l'accès aux ressources premières est entravé, que ce soit à cause de difficultés géopolitiques et de tensions géopolitiques ou alors de tarifs douaniers, on est toujours dans la perspective, effectivement, de prix qui grimpent. Et ça peut handicaper la production industrielle aux États-Unis et les perspectives économiques à terme.
Est-ce que, selon vous, la récession est un mal nécessaire pour Donald Trump, pour reprendre un terme utilisé par le journal Libération ? Est-ce que, de toute façon, selon lui, il va falloir en passer par là ?
Alors, l'activité, la nature cyclique de l'activité économique le laisserait penser. Simplement, si nous étions dans un monde classique, chose que nous ne connaissons plus, n'est-ce pas ? Effectivement, ça serait l'idée de dire, est-ce qu'on peut essayer de promouvoir un atterrissage en douceur, comme on disait hier, pour essayer de faire atterrir l'économie américaine et faire en sorte que le retournement conjoncturel soit le plus limité possible. Là, on fonctionne selon des règles profondément politiques, de branding politique, qui veut que Donald Trump essaye d'envoyer un certain nombre de messages qui soient cohérents avec son image de marque politique. Donc là, on rentre quand même dans une période de terre inconnue. Et ce qui est frappant, c'est véritablement, je dirais, le primat du politique et de la marque politique sur les intérêts économiques des États-Unis. C'est clairement ce qui est en train de distinguer cette présidence Trump de toutes les autres présidences qu'on a pu connaître par le passé.
Alors, il reçoit quand même Donald Trump. Il doit parler aujourd'hui, par exemple, avec des banquiers et des décideurs économiques. Qu'est-ce qu'il peut leur dire et est-ce qu'il peut les rassurer, selon vous ?
Alors, je pense qu'il a l'art et le don de rassurer effectivement tout type de public, aussi divers que varié. Et ces personnes dont vous parlez faisaient partie de la coalition qui l'a élu, qui l'a amené au pouvoir. Donc, doit-il les rassurer absolument ? Est-ce qu'il va essayer de leur dire que finalement tout ça, c'était que du bruit et de leur demander la confiance ? C'est probablement la stratégie pour laquelle il optera. À mon avis, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est essayer de donner une vision ou un plan. Chose qu'on n'a pas encore tout à fait connue des 50 ou 51 premiers jours de cette présidence Donald Trump.
D'ailleurs, ça bouge beaucoup même au sujet des droits de douane. Il y a des revirements, il a annoncé une mesure, puis il l'a suspendue, mais pour quelques semaines seulement. En plus, après, ça a été remis en place, mais pas pour tous les pays. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça, pour les marchés financiers et les investisseurs ?
Alors, les marchés financiers et les investisseurs, ça veut dire davantage d'incertitudes, davantage de manque de visibilité sur ce qui peut se passer à court terme, c'est-à-dire dans un mois, dans un an, et ça peut aussi se traduire par beaucoup, beaucoup de nervosité. Là, jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, Donald Trump semble accepter et encaisser le prix de cette nervosité au nom des bienfaits politiques. La question qui va se poser, c'est après cette rencontre cet après-midi, est-ce qu'il sera encore en mesure, est-ce qu'il aura encore les moyens politiques de le faire ? Ça, c'est vraiment la question ouverte qui va se poser en fin de journée.
Merci Jérémy Guez d'avoir été en ligne
Merci
avec nous.
Vous.
Professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris Business School. Je rappelle aussi le titre de votre livre, États-Unis, déclin improbable, rebond impossible, publié chez VA Éditions. Merci beaucoup.
RFI à Yamoussoukro, 96 FM. Du 15 au 23 mars, la semaine de la langue française et de la francophonie invite à célébrer la langue française autour du thème « Prenez la parole ». Dictées, jeux, ateliers, spectacles, quiz, participez aux événements organisés en France et dans le monde. Une édition 2025 proposée par le ministère de la Culture. Plus d'informations sur culture.gouv.fr en partenariat avec France Média Monde.
Ce jeudi, Couleur Tropicale fête ses 30 ans.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Brittany Lenga, nous avons 30 ans, 3 décennies au service des musiques et cultures afro. Nous aurons 2 heures d'antenne sur RFI, 2 heures de fête avec de nombreux invités, beaucoup de musique, des émotions, des surprises et peut-être des larmes de joie. Couleur Tropicale à 30 ans, rendez-vous jeudi 13 mars à 20h10 temps universel, 21h10 en France, toi-même tu sais.